Qu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovico Bragnac et d'Ali Benarbia, avec des invités exceptionnels. On était avec Christophe Pelissier il y a quelques instants, l'un des héros de cette soirée, Amiens qui s'est imposé 4-1 face à Reims ce soir. On vous rappelle, tiens, les résultats de cette soirée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain cet après-midi qui a battu Angers 3-1. On vous attend au 32-16, supporters du PSG, pour parler de cette composition d'équipe, de cette tentative. Est-ce que vous avez aimé ou pas? Est-ce que vous voulez que ça se refasse, qu'il retente le coup, Thomas Tuchel? On vous attend au 32-16 pour y répondre. Un partout entre Nantes et Caen. Victoire donc d'Amiens 4-1 face à Reims. 0-0 entre Montpellier et Saint-Etienne, et Dijon a gagné 4-0 à Nice, et victoire de Toulouse 1-0 face à Nîmes. On va s'attarder justement sur ce Toulouse-Nîmes. Victoire 1-0 pour les Toulousains. Gradel qui a marqué un pénalty à la 80e, il avait raté un pénalty, ou plutôt Bernardoni l'avait arrêté en fin de première période. Toulouse qui enchaîne un nouveau succès après la victoire 2-1 face à Bordeaux. On sait pas trop comment se placer et qu'attendre de cette équipe de Toulouse finalement.
Non, mais là, Bernardoni fait un gros match. Ça veut dire que il a déjà sorti un penalty plus deux arrêts en un contre un. Donc, normalement, cette équipe de Toulouse qui dominait Nîmes était censée gagner, Nicolas. Donc, automatiquement, de là à quoi s'attendre. Ils font un meilleur début de saison.
Sans oublier le but refusé d'une courte tête.
Ouais, là, il y a Ezek qui était hors jeu en tout début de match.
Je sais même pas si c'est vraiment être hors jeu. Et surtout que, on s'attendait surtout d'abord à une bonne début de saison, de Toulouse ces dernières années, ce qui se passe très très mal. Alors, ce que je comprends pas dans ce club-là, c'est qu'arrive un moment, on en avait marre du Casanova, avec cette défense, travailler, on voulait plus revoir du Casanova. Casanova revient, puisqu'on le reprend, apparemment, puisque peut-être, comme tu as dit Nicolas, peut-être que Pelissier, ça s'est pas fait. S'ils ont évolué Pelissier, donc ils sont revenus sur Casanova. Et peut-être que Casanova, va faire peut-être un peu plus confiance aux joueurs offensifs, ce qu'il faisait un petit peu moins quand il était coach.
Il est toujours coach, mais
quand il était coach de Toulouse avant.
Ouais, je crois que le choix de Casanova, il est surtout pour se rassurer à un moment où ça fait deux fois que tu frôles la descente. T'as changé de coach deux ou trois fois. Entre lui, finalement, t'as pas trouvé mieux. C'est un retour aux sources. Alors même si on a pu critiquer à droite le jeu d'Alain Casanova, il n'y a pas de spectacle. Bon, c'était au niveau de l'efficacité, il y avait quand même des choses. Donc, je crois que c'est un retour aux sources qui le rassure. C'est quelqu'un qui doit bien connaître. Voilà, c'est peut-être une période intermédiaire du côté de Toulouse, mais je crois que le recrutement a été bien mené. Ils ont fait des bons choix pour une fois, et que cette équipe, pour l'instant, elle démontre des choses, notamment avec en tête d'affiche Max-Alain Gradel, qui développe des qualités de leader qu'on ne lui connaissait pas forcément.
Il y a l'aspect mental, t'as raison de le dire, parce qu'il y a ce qu'il apporte sur le terrain, mais il y a aussi.
Non, mais c'est surtout sur la fin de saison dernière où il a porté l'équipe, notamment sur les barrages.
Quand c'était chaud.
À bout de bras.
Mais tu sais qu'il a tendu la joue, c'est-à-dire il se défilait jamais devant les médias. Enfin, il a toujours assumé, Max-Alain Gradel. Pour le coup, ça, il s'est affirmé comme un leader de cette équipe, Max-Alain Gradel. Victoire 1-0 donc de Toulouse face à Nîmes. Sachez qu'il vient de déclarer Alain Casanova que c'est l'état d'esprit qu'il a apprécié ce soir, et c'est ce qu'il veut retrouver dans les autres matchs cette saison aussi. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait.
C'est ce qui est important à la base. On parlait de l'OGC Nice. D'abord l'état d'esprit, et après la façon de jouer. Mais si tu n'as pas l'état d'esprit, que ça soit dans tous les secteurs du jeu, automatiquement tu auras des problèmes.
Réaction de Bernard Blacquart, l'entraîneur de Nîmes, en conférence de presse. Nous avons souffert face à une belle équipe de Toulouse. Quand on concède deux pénaltys dans un match, c'est difficile d'obtenir un résultat. Nous avons été trop timides offensivement, trop timorés. On a perdu énormément de ballons. Toulouse n'a pas volé sa victoire, mais c'est dommage car nous n'avons pas osé jouer. On s'est contenté de défendre, a déclaré Blacquart. C'est sympa comme discours, ça aussi.
C'est dommage, c'est un coup d'arrêt pour Nîmes. On aurait aimé qu'ils soient un peu plus enthousiastes par rapport
battu
à
Angers,
ils étaient sur une victoire avec un tel panache contre l'Olympique de Marseille. Et un peu le syndrome Strasbourg, c'est-à-dire qu'à la maison, tout feu, tout flamme, et puis à l'extérieur, on est un peu plus timoré. Donc, on attend que du côté de Nîmes, peut-être, on se lâche un peu, parce qu'ils ont les joueurs pour.
Est-ce que c'est psychologiquement un premier match extérieur? Au pire, même si on perd, c'est normal. Tu reçois Marseille, de toute façon, c'est le gros, donc on va se lâcher. Et puis là, on se dit deux victoires. Et si on en faisait une troisième? Et là, on essaie de calculer. Cette équipe de Nîmes ne doit pas calculer sa force. Et je pense, c'est la mentalité de Blacquart, c'est de tout donner à fond. Et on verra à la fin du match.
Parce qu'au-delà de l'agressivité qu'ils ont pu mettre dans les premiers matchs, et notamment sur le match olympique de Marseille, ils ont aussi de la qualité technique.
Ça jouait très bien.
ils ont des joueurs, que ce soit Savanier, Buenga.
Non, ils se projettent à 4-5. Bozok, c'est ce qui fait mal.
C'est une équipe.
Alors, Bozok, il l'a fait rentrer, je sais pas s'ils ont un problème encore plus avec lui, il l'a fait rentrer à 5 minutes de la fin, alors que devant, ils se sont pas créés d'occasion.
Un petit mot, messieurs, aussi sur la dernière affiche de ce samedi, Montpellier-Saint-Etienne 0-0. Voilà, on a eu un peu peur à la mi-temps, il y avait très peu de buts hein, d'ailleurs hein, sur l'ensemble de ces matchs. Celui-là, c'est le seul qui s'est pas débloqué finalement.
C'était pas trop beau.
Non, c'était pas GG. Ouais.
Pelouse aussi pas trop belle. Derrière Zakarian qui aurait préféré une équipe Saint-Etienne qui attaque à tout va pour profiter des espaces, ce qui n'était pas le cas. Et là, on a eu deux équipes qui se regardaient un petit peu. Et là encore, offensivement, j'ai du mal à comprendre que, à pas comprendre que les attaques ne se lâchent pas autant et à créer sur nombre.
Il y a eu trois tirs cadrés dans ce match. Hein. Un du côté de Montpellier, deux du côté de Saint-Etienne.
C'est incompréhensible.
Ouais. On a l'impression de retrouver un peu le Montpellier de la saison dernière et finalement le Saint-Etienne très solide qu'on a vu aussi en fin de saison.
Ils viennent de recruter deux attaquants.
Ah ben, il y en a même eu quatre, je crois, d'ailleurs, en tout, ouais. Et quatre joueurs à vocation offensive.
Mollet, Laborde et Delors. Ouais. C'est censé, normalement, offensivement, à faire la différence.
Mais après, bon, faut le temps que ça prenne.
Au-delà de ça, ouais, ces deux équipes-là, je suis vraiment pas inquiète pour eux cette saison. Ils ont fait un recrutement cohérent. Ils ont deux entraîneurs qui va réussir à tirer vraiment le potentiel de ces équipes-là. Je suis pas inquiet. Ça a été un peu ce match-là a été un peu Montpellier. On connaît la difficulté de jouer Montpellier à Montpellier. Moi, je suis Jean-Louis Gasset et Michel Desarcariens. J'ai entièrement confiance en eux pour faire une saison autre que le match qu'on a vu ce soir.
Jean-Louis Gasset a déclaré en conférence de presse qu'il considère que ce mois d'août est positif avec deux nuls et une victoire. Vous êtes d'accord avec lui, avec l'entraîneur de Saint-Etienne?
Victoire à domicile.
Nul à Strasbourg et nul à Montpellier. C'est vrai que c'est pas mal.
Nul à Strasbourg en jouant une bonne demi-heure à 10 contre 11.
Mm-hmm. Exactement.
Ouais, non, c'est une bonne chose pour Saint-Etienne avec des arrivées de joueurs. Cabella qui vient juste d'arriver. Je pense qu'après, offensivement, ils vont pas être mal. Et s'ils arrivent à être vraiment costauds en défense avec un Ruffier, qui là, on parlait de gardien de but, qui quand ça va pas, ben lui, il les fait les arrêts. Ça te permet de souffler, de récupérer. Ben, je pense que Saint-Etienne peut faire une belle saison cette année.
Place au Paris Saint-Germain, puisque ce samedi avait débuté par le match entre le Paris Saint-Germain et Angers, et on a retrouvé eh bien le trio offensif flamboyant du Paris Saint-Germain, Cavani, Mbappé et Neymar, buteur, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Le PSG qui a eu beaucoup de difficultés en première période, Mangani avait égalisé à la 22e sur penalty, avec, on va le voir dans quelques instants sur RMC Sport News, un schéma de jeu totalement différent de la part de Thomas Tuchel avec une défense à 3. Il a mis en place un espèce de 3-4-3, Thomas Tuchel, au cours de la première période, avec notamment le premier match, titularisation de Kehrer en défense centrale dans cette défense à 3, le jeune allemand qui était à Schalke 04 et qui a été recruté pour plus de 35 millions d'euros par le Paris Saint-Germain, et il était avec Kimpembe et Thiago Silva en défense, notamment Kehrer. Vous avez pensé quoi de ce match du Paris Saint-Germain? Au final, Tuchel a eu raison d'expérimenter ou pas d'ailleurs?
Bon, le 3-5-2, pourquoi pas? C'est quelque chose qu'il a beaucoup expérimenté du côté de Dortmund. C'est quelqu'un qui aime bien ce schéma-là. Il n'est pas vraiment sur le système, le questionnement. Il est plutôt sur le choix des hommes. Choisir André Di Maria pour jouer sur comme latéral plus haut, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée qu'il ait eue d'ailleurs. Il faut quand même lui reconnaître qu'il a l'intelligence. Moi, je l'ai connu quand j'étais au Werder de Brême en Allemagne. C'était quelqu'un d'assez têtu, voire obtus. C'est quelqu'un qui mourait, on disait lui, qui mourait souvent avec ses idées. Là, on voit que depuis le début au Paris Saint-Germain, il a su s'adapter, il adapte son caractère. Il a eu l'intelligence de revenir à des choses beaucoup plus dans la normalité. Enfin, ils sont rentrés dans le schéma traditionnel du Paris Saint-Germain. On a vu quand même que c'était beaucoup mieux huilé en seconde mi-temps. Après, il faut pas se centraliser que sur ce schéma-là et sur le choix de Di Maria. Moi, il y a eu le choix du positionnement de Neymar qui m'a beaucoup intéressé. Et en tant que numéro 10, j'ai aimé le fait qu'ils puissent partir d'un point plus haut pour venir décrocher plus bas, notamment quand ils ont été tous à un moment donné le choix de Di Maria et de Meunier. Ça fait qu'ils étaient les quatre alignés, les quatre attaquants alignés devant, et c'est pour ça que les premières minutes ont été un peu difficiles pour le Paris Saint-Germain. Ils n'arrivaient pas à trouver des schémas de jeu, notamment des triangles, parce qu'ils étaient tous alignés. Il l'a reconnu d'ailleurs en conférence de presse, où ses schémas de passe pour lui n'étaient pas assez rapides.
Vertical.
Donc Di Maria menait beaucoup trop haut tout de suite. Et là, Neymar, il a l'intelligence, lui, de revenir, de décrocher un peu à la hauteur de Rabiot et de Marquinhos, pour essayer d'avoir un peu plus d'influence sur le jeu. Et là, on a pu voir justement les pas sur Cavani, les pas sur Mbappé, et on a vu d'autres choses. Mais j'ai trouvé ce positionnement de Neymar proche d'Mbappé, parce qu'il faut admettre que la relation Mbappé-Neymar, elle est quand même, elle est assez fusionnelle.
On vous pose la question également au 32-16. Le sondage est sur le compte Twitter de l'After. Tourelle doit-il insister pour installer sa défense à 3 ou doit-il lâcher l'affaire et rejouer à 4 derrière? Ce qu'il a fait d'ailleurs en seconde période, là où le Paris Saint-Germain s'est finalement imposé. Vous êtes 81% à dire qu'il doit insister Thomas Tourelle. Je vous pose la question à Ali et Ludo. Est-ce qu'il doit insister Thomas Tourelle avec ce système, cette défense à 3?
Je vais te répondre, c'est pas qu'il va insister, il va jouer à 3. Il prend sa défense et son effectif, il l'a regardé pour jouer à 3. Et de toute façon, il a des latéraux qui veulent jouer haut, que ça soit Meunier, que ça soit Alves, que ça soit Kurzawa, ce sont des joueurs qui, à la base, veulent jouer haut. Et il a ces fameux 4 défenseurs pour jouer à 3 derrière avec un où il peut tourner. Donc il va y jouer. Et là, la différence, que quand Ludo disait que Neymar c'était bien dans l'axe, j'aimais moins bien, dans le sens, moi pour moi, dans ce poste, se mettre entre lignes parce que des fois on est obligé de jouer avec lui. Mais si tu as Verratti et Rabiot, automatiquement c'est beaucoup plus facile. Alors que là, avec un Marquinhos et Rabiot, les transmissions étaient trop longues. Si tu as Verratti, c'est lui qui fait le décalage entre la défense et l'attaque, et là Neymar, Neymar sera comme un poisson dans l'eau à vadrouiller juste derrière Cavani et Mbappé.
On a que Gabriel qui est supporter du Paris Saint-Germain et qui on va poser cette même question également sur ce système tenté par Tourelle aujourd'hui face à Angers. Salut Gabriel.
Oui, bonsoir Nico, Gabriel. Bonsoir Ludo, bonsoir.
Salut Gabriel.
Alors Gabriel, est-ce que tu penses que Tourelle il doit insister avec ce système de jeu, cette défense à 3 justement?
Ouais, je pense qu'il doit insister parce que je pense qu'actuellement l'équipe elle a les joueurs pour l'appliquer et l'utiliser. On l'a vu là sur la première mi-temps qu'il manquait d'automatisme. Moi je rejoins Ludovic sur le positionnement de Neymar, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait il est entre les lignes et du coup bah, c'est un joueur qui déjà voit vite, réagit vite, et là en plus comme il est entre les lignes il a encore plus de temps pour faire ses choix parce que du coup il n'est pas pris tout de suite à la culotte et il a encore plus de temps pour faire ses choix. Et à plusieurs reprises il a quand même fait des passes vers l'avant qui étaient très intéressantes et il a beaucoup complètement déséquilibré je trouve la ligne défensive d'Angers à certains moments. Après, ce que j'ai bien aimé aussi avec Tourelle, c'est qu'il a vu que c'était un peu compliqué parce que c'est très regroupé derrière chez Angers et on a quand même pris le feu en contre. Parce que justement, je pense que les joueurs maîtrisent pas encore le système. Il a eu l'intelligence de revenir en 4-3-3 et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a la capacité à utiliser plusieurs systèmes, même dans un match. Et je pense qu'on verra l'équipe à plusieurs reprises peut-être changer de système en fonction des matchs et d'adversité. Mais moi, je pense qu'il faut insister. Au moins, bah voilà, ça change et c'est ce qu'on a reproché à Emery de pas changer. Et là, on a quelqu'un qui change, qui a des idées, qui a les joueurs pour, qui veut imposer quand même quelque chose de neuf. Et ça peut faire du bien aussi au PSG de changer un peu d'identité et de montrer autre chose en fait en match.
C'est vrai que s'il y a bien une chose qu'on peut pas reprocher à Tourelle, notamment aujourd'hui, bah c'est le fait qu'il tente des choses, justement. Mais qu'il n'est pas borné. Parce que tu disais en Allemagne, il avait l'image d'être assez borné dans ses idées. Là, bah il s'est rendu compte qu'il s'était planté, il a changé quoi.
Mais je pense pas qu'il se trompe sur le, comme on l'a dit, il se trompe pas sur son système. Son système, il va réussir, à mon avis, à l'imposer.
Non, mais il se rend compte que sur un match,
il a pas les hommes pour le moment pour pouvoir jouer comme ça. Il faut qu'il récupère, son arrière gauche, qu'il attend, ou alors ça sera Kurzawa. Et si ça sera Kurzawa, bah ça sera Kurzawa. C'est pas, j'ai trouvé aussi le petit jeune qui est rentré, là,
capable
de,
Il est
très bon dans l'intelligence du jeu. Il a pris les espaces, bonne qualité de centre. Je l'ai vu au point de corner revenir comme un mort de faim, se replacer,
très bonne vitesse.
Couvrir Thiago Silva à un moment donné à l'opposé comme le fait Meunier. Mm-hmm. Et c'est un garçon qui peut être une bonne doublure aussi.
Déjà Dagba était pas mal, je l'avais trouvé pas mal moi en début de saison aussi.
Non, déjà Dagba et Nson qui pas été mal offensivement, qui faisait des très bons allers-retours. Et dans un 3-4-2...
C'est un espèce de 3-4-3 avec un joueur plus décroché.
Ouais, avec Neymar qui se promène, c'est très intéressant. Mais c'est toujours pareil. Dans le 3, avec 3 défenseurs, c'est ces fameux 2 joueurs qui sont devant, qui eux, plateforme là, qui font la différence. Mais là, Rabiot le faisait tout seul. Marquinhos était un petit peu perdu. Il ne savait pas comment se placer pour recevoir et donner transmission. Et ça freine le tout. Et quand on aura Verratti et Rabiot, et là, ça sera tout à fait
différent. Je sais pas si tu as vu, Ali, par contre, il y avait deux étapes par rapport dans ce système-là, parce que le match, il bascule à un moment donné. Amiens revient, mais à un moment donné, ils sont proches quand même de craquer, de prendre le deuxième but sur la tête de Cavani sur le poteau. Ouais. Et ça a été vraiment dur pour eux pendant à peu près une dizaine de minutes. Donc j'ai trouvé très intéressant ce système au niveau du pressing haut. Ouais. Il y avait beaucoup de densité et beaucoup de mal à ressortir du côté d'Amiens. Par contre, la défense à 3, va falloir qu'ils s'organisent pour compenser les montées de Meunier et les montées de l'arrière gauche éventuelle. Parce que là, ils étaient beaucoup trop collés les trois. Il faut qu'ils aillent chercher plus. Si tu joues comme ça, il faut que l'arrière latéral opposé revienne.
Et que ton milieu axial aussi redescende.
Et celui concerné par le côté aille chercher plus haut. Et Amiens, Angers l'a très bien fait. Dans les premières minutes, ils ont tout de suite trouvé les balles dans le dos d'Di Maria et ça peut faire 2-1 à la mi-temps.
Gabriel, comment tu l'as trouvé Kerrer là? Alors il a disputé ses premières minutes avec le Paris Saint-Germain, il a été sorti à la pause justement au moment où Tourelle a rebasculé à une défense à 4. Tu l'as trouvé comment le jeune ancien joueur de Schalke 04?
Bah, je l'ai trouvé emprunté. Je vais pas lui jeter la pierre parce que c'est son premier match dans un système que l'ensemble de l'équipe ne maîtrise pas. En plus la faute sur laquelle il amène le pénalty, c'est pas lui qui est fautif en fait parce qu'il essaye de compenser c'est Thiago Silva je crois qui est battu.
Il le voit pas.
Et en fait, dans le dos et donc voilà. Moi je veux pas lui jeter la pierre, je pense que c'est un gamin, il a quand même montré des choses intéressantes. Après voilà, c'est son premier match au Parc, une grosse pression, il était attendu, il vient d'arriver dans l'effectif, ça fait quoi 15 jours, 3 semaines qu'il est là. C'est compliqué, on sent que c'est compliqué et faut lui laisser du temps. Je pense qu'il faut lui laisser du temps. Après, il est censé faire le quatrième. Donc, voilà, c'est pas, je trouverais dur qu'on la somme là pour une erreur alors que bon, derrière, l'équipe s'en sort bien. Dagba a fait une erreur similaire la semaine dernière. Voilà, c'est des jeunes et ça fait partie de l'expérience et ça les fait grandir aussi. Donc, mais je pense que dans cette rotation, il va être intéressant et à terme, je pense qu'il va être même très intéressant.
Merci Gabriel de nous avoir appelé.
Merci Gabriel.
De rien,
bonne soirée, salut bonne Gabriel. Soirée. Tiens, puisqu'on parlait justement du jeune Kerrer, titulaire aujourd'hui, premier match avec le PSG. Sondage également sur le compte Twitter de l'After. Le jeune défenseur parisien Thilo Kerrer est passé à côté de sa rencontre face à Angers. Qu'avez-vous pensé? Vous êtes 51%, ce qui est donc très peu, à répondre qu'il est encore trop vert et 49% à estimer qu'il doit être reconduit. Il a été sorti à la mi-temps par Thomas Tuchel, Thilo Kerrer justement. Et Thomas Tuchel a expliqué ce choix à la fin du match. On va l'écouter, l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
Un peu malheureux parce qu'il a commencé bien avec l'équipe, c'était la première fois et il est un garçon très très humble et il est pour ça il a fait une faute pour le penalty et après ça l'arbitre m'a dit qu'il est dangereux pour lui parce qu'il a fait trois fautes et une faute pour le penalty et pour ça c'est dangereux il a eu un carton jaune et pour ça j'ai décidé de ne prendre pas de risque et ça c'était pour ça.
Voilà, il a pas voulu prendre de risque, donc.
Oui, c'était pour ça. Il a enchaîné. En fait, j'ai regardé. Il a enchaîné trois fautes. L'arbitre a été gentil. Il l'a expliqué déjà aux joueurs. Et plus un penalty. Je pense que il serait resté sur le terrain. Le moindre contact où il aurait fait faute, c'était un deuxième jaune. Parce qu'il aurait été par obligation. Parce que déjà, les Angevins commençaient à lui mettre la pression dessus. C'est une bonne chose de la part de Tourel. Mais par contre, je n'ai toujours pas compris pourquoi il m'a mis Kimpembe sur le côté gauche, complètement, et non pas Kerrer et Marquinhos dans l'axe. Ça aurait été beaucoup mieux, même un Di Maria qui tourne autour au milieu de terrain. Ça aurait été plus facile pour Kerrer de se retrouver sur un côté que de jouer de suite dans l'axe côté droit.
Tiens, puisque tu évoques Angel Di Maria, il y a Julien, supporter du Paris Saint-Germain, qui nous a appelé au 32-16 et qui veut évoquer également le cas de l'Argentin qui était titulaire côté parisien aujourd'hui. Salut Julien.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Julien.
Alors Julien, je crois que tu voulais justement parler de Di Maria parce que toi, tu l'as trouvé un peu perdu ce soir, l'Argentin. Mmh.
À première mi-temps, ouais, complètement, c'était la décatombe. Il était sur le teco, il s'en sortait pas, il arrivait pas. Et on a vu à la mi-temps, changement de l'entraîneur, replacement un peu dans l'axe, et là, du velours, un peu comme Ali à l'époque, du velours.
Non, c'est vrai, t'as entièrement raison dans le sens où il aime pas rester sur le côté, Di Maria. J'aurais préféré à la rigueur même, Ludo me dit dans l'axe, je préfère Neymar qui commence à côté gauche et après qui tourne et qui va dans l'axe, et plus un Di Maria qui aime beaucoup courir, tu vois, vadrouiller, changer de rythme.
C'est pas un homme de ligne, Di Maria, c'est pas quelqu'un qui va longer la ligne.
Du tout.
C'est quelqu'un qui a besoin de liberté.
Non, il court beaucoup.
Ça s'est vu.
Et ça s'est vu parce que même au niveau de ses centres, alors qu'habituellement il centre super bien, et là le fait d'être bloqué sur le côté, ben il était pas bien, il était pas du tout bien.
Je crois qu'il a fait 11 centres avant de faire la passe décisive pour Mbappé.
Non mais Julien aussi, il n'est pas habitué à jouer dans ce rôle-là. Il est quand même revenu quand il a été pris dans son dos une paire de fois. Je l'ai vu faire des sprints défensifs qu'il n'a pas l'habitude de faire. Ceci peut expliquer cela sur la perte de lucidité après dans le secteur offensif. Après le deuxième mi-temps, comme tu dis, replacement et puis...
Mais c'est vrai que c'est curieux, Alice, que tu faisais référence. Dans un système comme celui-ci de la première période, c'est presque bizarre de pas le voir au milieu de terrain finalement. Je veux dire axial, quoi. Il a joué à ce poste-là déjà, notamment au Real.
C'est pour ça que tu mets d'abord Neymar et après tu essaies de voir où tu mets les autres. Et ça peut causer un problème. Et comme dans le sens Kurzawa, il a disparu ou par blessure ou par méforme, je ne comprends pas qu'il n'ait pas commencé avec Nsonki et de s'obliger à jouer avec Herrera. Et de mettre Marquinhos, et de mettre Rabiot, et Thiago Silva. Et tu te retrouves avec pratiquement que des joueurs très défensifs plus Rabiot, et en ayant que Neymar pour essayer de trouver des solutions. Ça fait trop à domicile.
Et cette expérimentation de Tourelle, t'en as pensé quoi toi, Julien?
J'aime bien. On sent vraiment qu'il manque d'automatisme. Par contre, voilà, là, pour les essais contre une équipe comme Angers, c'était très bien. Par contre, voilà, on aurait fait ça en Ligue des Champions. Je pense sur un premier match, on se serait bien fait taper, à mon avis. Parce que il y avait beaucoup trop d'espace. Les joueurs étaient un peu perdus, genre Marquinhos juste devant la défense. Moi, j'ai pas trop compris. Par contre, gros big up à Rabiot. Très gros match pour moi.
Ouais. C'est vrai.
Et heureusement qu'il était là au milieu, quoi. J'avais l'impression
C'est d'ailleurs bien que tu en parles, parce que va bien falloir à un moment donné se positionner sur le cas Rabiot. Moi, je suis le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Et ben, je cède aux caprices ou peut-être qu'il est beau, hein,
c'est
si
un
demande.
Bah,
et à un moment donné, il faut se positionner sur le cas Rabiot. Tu peux pas.
Tu veux dire quoi? Faut trancher.
Non, mais il faut lui dire voilà. Et c'est le taulier au milieu de terrain. Il le montre. En plus, les matchs qu'il fait, il est en position de force. Ça veut dire que le PSG, t'es pas en mesure de négocier aujourd'hui, c'est lui qui a la main, et ben tu cèdes. T'es plus à une... t'es plus à ça près, tu cèdes avec Adrien Rabiot, t'as ton milieu de terrain, t'as ton Parisien, et puis tout le monde est content. Le match qu'il fait encore ce soir. Défensivement, offensivement.
Bon, alors attends, moi je me mets à la place aussi des dirigeants du Paris Saint-Germain. Ils se disent, alors ok, si on cède aux caprices, comme tu dis, entre guillemets, de Rabiot, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui vont nous faire la même? Et finalement, on va être.
Mais c'est pas grave, tu le signes, tu le vendras toujours au niveau où il est actuellement, tu le revendras.
Contraire.
Si c'est dans un an et que le Barça vient le chercher, tu le vendras 50.
60.
Et tu gagneras. Si tu ne cèdes pas maintenant, tu risques de le perdre. Lui, c'est un garçon, attention, hein, il a la tête bien faite, il a du caractère. Je peux vous dire qu'il lâchera pas le morceau. Lui, il estime qu'il vaut autant. Et ben, t'es plus en position de force. Faut le signer, c'est tout.
Julien, t'es d'accord avec ça, toi?
Ouais, mais faut entre guillemets un peu céder à ses caprices, lui montrer que qu'il est le trompe-l'oeil au milieu, que le club l'aime, les supporters l'aiment beaucoup, hein. Faut vraiment le garder, c'est vraiment important. Là.
Et puis se remettre de la claque qu'il a pris de l'avant Coupe du Monde. En plus, t'es champion du monde derrière. C'est-à-dire que lui, il rate le...
C'est-à-dire se remettre de la claque.
Il
est pas pris, non, mais après, il fait rien pour améliorer les choses non plus.
Non, mais il aurait pas été pris de toute façon.
Oui, non, mais d'accord, mais là, il va peut-être pas être pris avant un moment, suite à ça. Bah oui,
avant
mais.
Avant la liste, on est à 70%, on pense qu'il est dedans, tous.
Oui.
Et lui le premier.
Oui.
Donc il faut se remettre de ça.
Oui.
D'autant qu'ils sont champions du monde derrière. C'est-à-dire que t'es passé à côté d'un titre de champion du monde.
Vu la lettre qu'il balance derrière, il va avoir le temps de s'en remettre, si tu veux.
C'est possible.
Je suis le PSG, moi, je le fais re-signer de suite, en sachant qu'en plus, il va rester que pour le PSG, même pas pour l'équipe de France.
Ah, t'es comme ça, toi.
Ah, ben j'en profite un maximum.
Ah, ben bravo. Bravo, monsieur.
Et je rajouterai Areola, qui a fait deux super arrêts.
Attends, garde tes cartouches, on va y revenir dans quelques instants.
Bon,
et on va écouter également Thomas Meunier sur Thomas Tuchel, parce qu'on parle du technicien. Vous allez voir que Meunier dit beaucoup de bien de Tuchel, l'homme également, le manager. Julien, merci en tout cas d'avoir été avec nous.
Yes, merci.
Merci, Julien. Bonne réseau, puisque j'ai remarqué que tu parlais en verlan, mon pote.
Yes, bye bye.
Ciao frérot.
Bye bye.
Ciao frérot.
Salut Julien. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live également pour revenir. On le fait après, non, Jérôme? Le son de... Ah non, on le fait maintenant. Bah, on va l'écouter maintenant. Tiens, Thomas Meunier sur Thomas Tuchel. Vous allez voir, il kiffe Thomas l'homme également.
Il se passe très très bien. Quelqu'un avec une vision super jeune, qui est très porté sur l'humain. Je pense que c'est ce qu'il faut, un vrai manager. La plupart des joueurs ici dans l'équipe ont connu déjà beaucoup d'expérience et n'ont plus grand chose à savoir du football. Et voilà, le reste c'est le feeling avec le coach. Il faut que ça passe, il faut que ce soit positif et pour l'instant c'est une façon merveilleuse.
Voilà, d'une façon merveilleuse, il parle de feeling carrément Thomas Meunier. Alors c'est vrai que les histoires d'amour commencent souvent très bien et elles se finissent souvent très mal d'ailleurs aussi, pas toutes hein, mais
non, ce qui est bien, ce qu'il dit, c'est qu'on retrouve plein de grands joueurs qui ont vu beaucoup de coachs, il va pas leur apprendre quelque chose au niveau football. Et là, c'est l'approche du feeling au niveau psychologique collectivement. C'est ce qu'on avait besoin, un vrai manager. Ça veut dire qu'il n'y en avait pas avant. Voilà, c'est pas compliqué.
Tu dis ça comme ça, toi ?
Complètement.
Okay.
À connaissant Meunier, oui. Et il envoie des messages généralement, il dit pas
des choses en l'air.
Non, mais.
Et il joue.
D'où l'importance d'avoir.
Oui, ça,
d'avoir
ça aide aussi
dans ces équipes-là. À l'image de ce qu'a pu faire Zidane, comme tu le dis, quand Benitez vient, il apprend à Ronaldo comment il faut tirer un coup franc. Bon, tu pars forcément très mal.
C'est
aujourd'hui, ces équipes-là, sur des joueurs de ce niveau-là, voilà, il suffit simplement de les. Au final, c'est des grands sensibles tous. Moi, j'étais en tant que joueur, je l'ai été un peu aussi comme ça. L'affect, c'est important.
T'avais un sacré boulard étant jeune.
Oh, arrête, toi. Non, mais l'échange avec l'entraîneur est important.
Non, mais c'est
Neymar,
important,
les
gars,
un grand sensible. Ben Arfa, c'est un grand sensible. T'as un paquet de joueurs comme ça. Cavani, bon, lui, il a l'air d'être un peu plus.
Il l'est.
Ouais,
il intériorise, mais
tu sens, c'est la page, quoi. Il y va.
Tous les joueurs ont besoin de quelque chose du coach, ouais. Même ceux qui ne jouent pas.
Tu voulais dire un petit mot sur Areola, je crois.
Oui.
Alors, il avait annoncé avant le match Thomas Tuchel qu'il serait titulaire pour ce match face à Angers, mais aussi face à Nîmes la semaine prochaine, pour qu'il prenne du temps de jeu avant le match de Ligue des Champions. On rappelle que Gigi Buffon sera suspendu. Hein. Ouais, les trois premiers matchs de Champions
League. Areola jouera les trois premiers matchs de Champions League.
Qu'est-ce que tu as aimé chez Areola aujourd'hui?
Ben, au moment où il y a eu deux fois un contre un, il a fait les arrêts. Ce qui faisait un petit peu moins la saison dernière, quand il y avait vraiment des un contre un. Et là, on en a eu beaucoup. Parce que c'est bizarre par rapport à cette défense qui se cherche. Et Areola a fait les arrêts au bon moment.
Oh là.
Exactement. Et au moment, en fait, que, on pensait que PSG gagnait 2-3-1, il n'y avait qu'encore 1-1. Et là, il fait les arrêts au bon moment. C'est là que j'aime bien les gardiens de but.
On a retrouvé Cavani donc ce soir, Neymar, Mbappé buteur, voilà les trois attaquants stars du PSG ont marqué ce soir.
Ouais, ce qui est assez intéressant pour le cas de Cavani, c'est quand ça va mal au PSG, il est toujours là pour t'en planter un. La première période a été ô combien difficile. Il met le but important,
il est toujours décisif.
Voilà, il est là. Et dans la deuxième période, par contre, plus effacé parce que la relation Neymar Mbappé se met en place.
Trop souvent.
Non, mais il faudra faire quand même attention à ça. Qu'ils se sentent pas exclus de. Il faut qu'ils forment vraiment ce trio, tous les trois.
Ouais, mais là, souvent, ils jouent à contresens, dans le sens où ils se cherchent trop. Alors que Cavani avait déjà déplacé toute la défense, à un moment ou à un autre, c'est pas bon.
Ouais, mais là où je rejoins Ludo, c'est vrai que d'ailleurs, même, c'est là où la communication elle est importante aussi, même sur les réseaux sociaux, tu vois, Cavani et Neymar, ça se fait des câlins, ça parle beaucoup l'un de l'autre dans les médias. Cavani, il n'est pas comme ça, c'est notre personnalité. Le mec, il se barre pendant 15 jours en Uruguay, aller chasser au fond
des
photos de réseau.
Il y a des images dans le couloir avant le début du match où Cavani arrive et justement, il y a des choses qui me laissent penser qu'avec Neymar, les choses se sont apaisées et que ça va fonctionner.
Messieurs, on y va. Et on revient dans quelques instants. Petit tour d'Europe dans quelques instants. On ira en Angleterre, on ira en Italie, on ira en Espagne, on ira même au Portugal. Simone Rovira est en train de s'échauffer. Il va être avec nous dans quelques instants. Il y avait deux grosses affiches de Serie A. Et Simone Rovira va nous analyser tout ça tout de suite.
L'Afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovic Obraniak et d'Ali Benarbia, sachez que Simone Rovira nous a rejoint. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Ça va toi?
Ça va.
Comment va Perry?
Perry va bien.
Ça va
bien. Bah, un peu énervé là.
Qu'est-ce qui se passe?
Bah, je pense qu'il a compris qu'elle va arriver un frère.
Sans déconner?
Ouais.
Elle va avoir un frère?
Bah, je veux prendre un deuxième chat. Je le dis.
C'est vrai?
Ouais.
Non mais tu l'as prévenu ou tu l'annonces comme ça en direct à l'antenne?
J'ai prévenu Perry, mais elle a pas compris à mon avis.
Ah ouais?
Mais la vie, ça commence à doubler les choses donc.
Tu vas prendre quoi?
Un chat abandonné, il y en a plein des chats abandonnés cet été.
Oh,
donc,
le grand cœur, putain,
il faut les aider.
Incroyable, bravo. Bravo Simone, vraiment c'est cœur énorme, vraiment.
Merci.
Mais tu l'as déjà choisi ou pas?
Je l'ai choisi.
Il va s'appeler comment?
Ça va s'appeler Hagrid.
Comment?
Hagrid.
Oh la vache, c'est bien. Hagrid, pourquoi Hagrid?
Bah Hagrid, c'était les gardiens d'Harry Potter.
Ah, je sais pas, j'ai pas vu.
Perry.
Oh, tu supportes. Non, mais j'en suis un grand enfant, mais.
Harry Perry s'appelle Harry Potter, c'est ça?
Ah, c'est pour ça?
Ouais.
Mais t'es fan d'Harry Potter, donc?
Bien sûr.
Ah, il y a beaucoup de monde qui sont fans d'Harry Potter.
Ouais, ouais, non, mais après chacun. Ouais, ouais, c'est pas mon cas. Vu que t'es là, on va commencer par l'Angleterre, Simone. Très bonne vanne de Jérôme Thomas. Voilà, t'as vu, ça a fait marrer tout le monde. Quelques petites images, quelques petits résultats venant d'Angleterre. Sachez que le champion en titre, Manchester City, a fait match nul 1-1 à Wolverhampton. Alors les Wolves qui sont vainqueurs du Championship de la saison dernière et qui ont marqué les premiers d'ailleurs dans ce match avec un but d'un Français, Willy Boly, alors qu'il a marqué de la main. Voilà, il plonge, il fait une tête plongeante, en fait c'est une main plongeante. Willy Woli, ancien joueur de la JOCR, qui a marqué le premier but à la 56e minute de jeu. Égalisation de la tête d'un autre joueur français, autre défenseur central, à savoir Aymeric Laporte, un partout dans ce match. Sachez que le but de Laporte, c'est le 1500e but d'un Français en Première Ligue. C'est énorme.
Et c'est le premier de Laporte.
Oui, exactement. Non, c'est énorme, 1500 buts français en Première Ligue. Liverpool, ce soir, cet après-midi d'ailleurs, s'est imposé 1-0 face à Brighton. Un seul but dans ce match, c'est Mo Salah qui a marqué le but de Liverpool. Victoire très importante hein, pour les Reds qui prennent seuls la tête du classement. Parce que City, du coup, un peu plus tôt, avait fait match nul face à Wolverhampton. Donc but de Mo Salah pour Liverpool. Et puis cet après-midi, autre match très important. Arsenal a remporté son derby 3-1 face à West Ham. Premier point, première victoire pour Unai Emery en Première Ligue. Qui était mené pourtant 1-0 après le but d'Arnautovic. Il a mis une belle frappe fouettée, Arnautovic, vous les voyez sur RMC Sport News. Allez, une petite passe là de Felipe Anderson pour Arnautovic.
Pas mal, Arnautovic, pas mal.
Et ensuite, égalisation de Montréal. But contre son camp de Diop, l'ancien défenseur du TFC qui a quitté Toulouse pour West Ham pour 25 millions d'euros cet été. Alors, il a pas de bol, hein. Il y a un centre en retrait de la casette, ça lui tape sur la cuisse et ça rentre. Et c'est Welbeck qui marque le troisième but, donc des Gunners qui marquent donc leur premier point, Unai Emery qui est lancé donc dans cette Première Ligue. On finit en Italie, mon Simone.
J'ai un doute sur Arnautovic. Je me rappelle si c'était lui au Quaresma qui allait prendre à la pizzeria derrière l'hôtel de l'Inter où ils étaient aubergés une pizza à l'ananas. On m'avait raconté ça. Je pense que c'était Arnautovic. Et je pensais que plus jamais j'aurais voulu parler avec lui.
Pourquoi?
Pizza à l'ananas. Mais tu rigoles.
L'autre il est vénère, ouais,
tu arrives en Italie, première soir et tu vas prendre un pizza à l'ananas.
Bah c'est, ça reste une pizza, non?
Non mais déjà une chose, dis-moi Simone, qui fait des pizzas à l'ananas en Italie?
C'est italien? Bah si on te demande, et c'est un joueur, c'est italien. Et tu sais, non. Mais tu sais que c'est un joueur de l'Inter, tu demandes une pizza et tu lui la fais.
Bon après, Arnautovic, il n'a pas atypique hein, comme personnage. Moi, j'ai eu des échos vers
c'est le Arnautovic autrichien. Ouais. Le Ibrahimovic autrichien.
Ouais. Il passait apparemment toutes ses après-midi, quittait les entraînements. Il y avait un zoo, tu sais, où tu pouvais aller en voiture à 50 km de Brême. Il passait tous ses après-midi là-bas, tout seul.
Qu'est-ce qu'il foutait là?
Il se baladait aux
oeufs. C'était son délire.
C'était son délire. Deux grosses affiches en série ce soir, mon Simone. On va commencer, tiens, par le Napoli-Milan. Alors, quel match hein. Victoire 3-2 du Napoli, qui a été mené hein, dans ce match. Hein.
Bah, t'es mené 2-0 même. Ouais. Début de la deuxième mi-temps. C'était un match renversant. Naples, comme la semaine dernière face à la Lazio, il a commencé mal. Il s'est fait mener aussi dans les jeux, pas seulement au score. Et après, petit à petit, l'équipe de Carlo Ancelotti, on a l'impression qu'elle arrive à prendre conscience de ses moyennes, conscience qu'il y a un jeu différent à mettre en place, conscience qu'il y a un système aussi différent. Mais après, il y a de la qualité, il y a des joueurs extraordinaires. Les départs de Jorginho, on l'avait dit, a fait baisser d'un cran Hamsik, qui aujourd'hui est un peu les Pirlo du Milan, c'est-à-dire c'est les joueurs créatifs devant la défense, mais a fait rentrer titulaire, aujourd'hui on peut dire Zielinski. Et Zielinski a marqué un doublé aujourd'hui, on s'attendait à voir un joueur comme Zielinski devenir plus en plus déterminant dans cette saison, mais là ça commence tôt, et c'est un joueur qui frappe des pieds gauche, des pieds droits, qui frappe de loin, ça risque de devenir un peu les joueurs en plus cette saison du Napoli.
Et de quelle nationalité, Simone, dis-le, vas-y.
Bah, je sais pas. On me dit que c'est d'un pays de l'Est ou Nord de
Géorgie.
C'est un très bon Polonais. L'autre Polonais, c'est Milik, qui n'a pas marqué des buts et a vu une soirée un peu plus compliquée.
Depuis qu'il a eu sa blessure, Milik, il est jamais revenu encore.
Il a marqué la semaine dernière face à la Lazio, mais après, il faudrait continuer à enchaîner des matchs et à trouver une certaine continuité. Oui, un rythme, mais surtout un niveau de confiance. Parce que quand même, s'il enchaîne 3, 4, 5, 10 matchs, il commence à comprendre qu'il peut être ce joueur, ce numéro 9 qu'il fallait la saison dernière aussi pour avoir un joueur en plus dans la rotation. C'est Napoli qui a fait pas beaucoup de changements dans les mercato, mais je commence à voir qu'avec Ancelotti, qu'Ancelotti a peut-être raison quand il dit qu'ils sont arrivés à peu de points, à comme ça, en montrant des doigts très, très proches. Très sérieux, ouais. Comme ça de titre, et cette année peut-être que je suis celui qui fait remplir un peu ces gaps qui manquent.
Ah, il dit ça
il l'avait dit dans la semaine dernière, ça, il l'avait fait comprendre. Il a énormément confiance, et la chose incroyable, on parle souvent du jeu de Sarri, de le pacte des joueurs de la saison dernière. Ancelotti, c'est un entraîneur différent, c'est quelqu'un qui a créé des groupes extraordinaires dans chaque pays, dans chaque équipe, tout le monde était derrière lui. Sauf la dernière année au Bayern, il était toujours souvent celui qui fédérait. Et on dirait qu'il a déjà réussi à recréer ça même au Napoli, qui était un groupe très fort et très derrière Sarri.
Mais alors, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'on connaît la passion qu'il y a autour du Napoli. De Laurentiis, le président, qui est complètement cinglé. Il s'est encore pris la tête cette semaine avec avec un autre président, avec un joueur, je sais plus. Enfin, il fait que ça. On a l'impression qu'il colle pas du tout à cette image, Ancelotti.
Non, mais lui, il savait, déjà, il l'avait dit, il voulait essayer cette nouvelle expérience, déjà en Serie A, enfin en après, et surtout dans une ville du Sud. Il voulait vivre ça. Et après, Ancelotti avait énormément de confiance dans les groupes qu'il avait à Napoli, et voulait voir si avec sa patte, il arrivait, on pouvait avoir quelque chose en plus. Le mercato, pour moi, était déficitaire, il était insuffisant, mais Ancelotti est en train vraiment de montrer que ce Napoli, avec son travail, avec sa vision du jeu, avec sa verticalité, beaucoup plus à mon avis que plus rapide de celle de Sarri.
Et le but de Bonaventura, le premier de Milan, là, c'est extraordinaire. Ouais.
Et surtout, ben, ça fait plutôt rire. Ça fait plutôt rire que c'est un typique action, on peut dire, du Napoli de Sarri. C'est-à-dire les changements de côté, la remise au milieu. Mais c'est vraiment une. Au-delà, Milan, il faut parler aussi. Mais Napoli, avec deux victoires face au Milan et face à la Lazio, marque déjà des points très très lourds dans cette saison.
Le gardien de Naples ?
Ospina ce soir. Il vient d'arriver d'Arsenal, il a fait quelques entraînements.
J'ai vu les buts.
Et c'est son premier match, il a, tu sais qu'il n'a pas joué beaucoup. Bon oui, il a fait la Coupe du Monde, mais quand même, ce n'est pas un gardien qui a l'habitude peut-être à enchaîner des matchs. Là, c'est la première fois qui jouait titulaire. Il est arrivé vraiment à la fin du mercato. On va voir. Je pense quand même qu'il va être titulaire au moins pour un mois ou deux avant le retour de Meret.
On a l'impression, on est tous un peu déçus, tu dis, du mercato de Napoli. Mais est-ce que finalement, garder cette équipe, ça fait des années maintenant, parce que
il perd des joueurs quand même cet été.
Jorginho,
c'est important.
Non, mais on en discutait. Oui. En fait, ils perdent. Mais un ou deux, pas plus. Et moi, je suis assez surpris par la qualité de ces joueurs chaque année. Ils ne se font pas piller comme, comme tous les autres clubs.
Ils arrivent à garder cette... Après les matchs, Ancelotti a dit, il y a des joueurs excellents, des qualités excellentes. Et peut-être quelqu'un ne s'est pas encore rendu compte qu'ils sont si excellents, sinon ils ne seraient plus ici.
Hamsik, par exemple. Hamsik, moi, j'aurais rêvé de le voir au PSG.
Les joueurs qui, à mon avis, est en train de devenir beaucoup plus importants dans l'équilibre de ce Napoli, c'est Alan. Alain qui est arrivé vraiment comme les milieux récupérateurs. Et aujourd'hui, c'est les milieux qui fait des buts, qui porte le ballon vers l'avant, qui fait des passes décisives. La passe décisive sur le but de Mertens, du 3-2, c'est lui. Et encore, c'est un joueur qui cherche à avoir des responsabilités, adore avoir des responsabilités et d'être toujours plus déterminant.
Mertens joue toujours en tant que numéro 9.
Mertens, il est sur le banc à 30 minutes de la fin.
Privilégie Milik à Mertens.
Bien sûr. Et c'est l'homme qui a changé en tous les matchs.
C'est maintenant qu'il fallait y aller en sélection, c'était pas avant.
Mais Ancelotti a fait comprendre, il a bien dit, que jouer avec 4 attaquants, c'est-à-dire Mertens à gauche, Insigne à gauche, Mertens, Milik et Caleon, c'est une éventualité. On va voir.
Autre affiche de cette soirée en Serie A, la Juve a battu la Lazio 2-0. Pjanic et Mandzukic ont marqué les deux buts de la Juve. Alors moi j'ai regardé un peu le système de jeu, ils ont joué en 4-3-3 la Juve avec Ronaldo à gauche.
En début de match, oui, après il s'excentrait souvent et Mandzukic allait libérer des espaces sur la gauche.
Il a toujours pas marqué.
Si t'as vu la passe décisive magnifique qu'il fait Ronaldo sur le but de Mandzukic.
Ça m'étonne pas.
Bah, tu verras alors, pour ceux qui n'ont pas vu, regarder.
On le voit sur BFM Sport.
Une passe, on peut dire extraordinaire, mais peut-être pas volontaire, sûrement pas volontaire, parce qu'il aurait voulu marquer un but. En vrai, il rate une but énorme.
Attends, magnifique, mais fait exprès. La talonnade comme ça. Mais je l'ai vu faire à l'entraînement, t'es sérieux ou quoi?
On sent qu'il est enthousiaste, il est plein de bonne volonté.
Il cherche des frappes, il cherche des frappes. Et au bout, j'ai regardé un peu ses stats la saison dernière, sur les 14 premiers matchs qu'il a joué dans la Liga.
C'est un diesel,
Il a marqué un 3 fois.
C'est un diesel.
Un 3 fois. Donc, il lui faut du temps, mais on voit vraiment, côté Ronaldo, on a enthousiasme, une envie de participer aux actions, l'effet qu'il vient récupérer des ballons, même quelques mètres dehors de la surface, et en début de match, c'était lui qui jouait sur la gauche. Après, il y a Mandzukic qui a pris un peu sa place, qui allait, on peut dire, ouvrir des espaces. Mais je trouve
il se met au service de l'équipe.
Oui, mais je trouve qu'il y a une vraie liaison qui peut naître entre Mandzukic et Higuain et Ronaldo, comme il y avait entre Benzema et Ronaldo Real Madrid.
Mais quand on voit cette équipe de la Juve, je trouve qu'au niveau caractère, elle ressemble au caractère de Ronaldo beaucoup plus que celle du Real. Quand on les voit travailler, dur comme il travaille, les Mandzukic, même un joueur comme Pjanic que je voyais beaucoup plus un joueur comme technique, on le voit travailler au milieu de terrain comme un joueur important. Ils ont la rage, ils ont l'envie et ils veulent gagner la Champions League, c'est ce qu'ils veulent avant tout.
Mais on dirait que l'avantage du fait qu'il soit là, Ronaldo, c'est qu'il y a tellement d'attention qui est focalisée sur lui, alors que ce soit médiatique et de la part des adversaires, que finalement ça libère d'autres joueurs aussi, non?
Oui, ça c'est vrai, ça libère à niveau des espaces, peut-être aussi à niveau mental, il y a moins de pression sur certains joueurs. Il y a des bémols, il faut les dire. Aujourd'hui, Dybala n'a pas joué. Dybala n'a pas joué, donc on peut se poser la question quel va être l'avenir de Dybala. Ah, sur les 11 joueurs qui étaient tout à l'heure aujourd'hui, Pjanic, gros match, mais Matuidi, premier match, extraordinaire. On dirait qu'il a jamais arrêté, il a jamais fait des vacances, il a jamais fait la
coupe. Il,
il est déjà au top.
Donc
pour toi, il est déjà au top physiquement, Matuidi, c'est extraordinaire.
Pour toi, Mandzukic sera le numéro 9 de la Juve.
Pour moi, Mandzukic, c'est un joueur pour jouer avec Cristiano, c'est incontournable.
Et toi, tu, enfin, se passer de Dybala, c'est envisageable.
C'est il a assez Dybala, partant d'ailleurs là, non?
Dybala n'est pas encore arrivé à être le leader de cette équipe. L'arrivée de Ronaldo montre que quand même la Juve voulait quelque chose de plus.
Il y a possibilité qu'il parte avant la fin du mercato, tu penses ou pas?
Non, pas avant la fin du mercato. C'est un joueur quand même de qualité extraordinaire. La Juve veut avoir même des remplaçants des hauts niveaux pour gagner la Ligue des Champions. Mais je pense qu'on va faire un bilan en fin de saison. Qu'est-ce qu'a porté Ronaldo? Qu'est-ce qu'a porté Dybala? Et quel avenir peuvent avoir les deux en jouant ensemble? Si on fait une comparaison avec le Real Madrid, pourquoi pas avoir un Dybala à la Gareth Bale, un Ronaldo et un Benzema Mandzukic. Il faudra avoir les bons systèmes. Aujourd'hui, ce sont deux matchs des championnats. La Juve a gagné deux matchs. C'était pas simple, mais Allegri doit encore comprendre comment mettre cette Juve pour faire jouer au mieux Ronaldo. On a vu quelques minutes Emre Can qui est arrivé, ça devait être un peu un recrue phare. Il n'est pas encore titulaire. C'est difficile de s'imposer titulaire quand tu as Pjanic, Khedira et Matuidi.
C'est très dur.
Mais Ali en parlait. Enfin, moi j'ai en tête les déclarations de Douglas Costa qui disait mais comment on va faire pour le suivre à l'entraînement. J'ai jamais vu un garçon travailler de cette manière-là.
Une chose encore sur Ronaldo. Cette semaine, il a dit que même l'ovation du Juventus Stadium quand il avait fait la retournée acrobatique l'avait convaincu. Cet amour que les adversaires lui avaient montré l'avait convaincu à signer. Mais aujourd'hui au stade, il y avait des.
Vous croyez à ça vous?
Attends.
Vous êtes vraiment des romantiques. Hein,
attends. Aujourd'hui au stade,
j'adorais les vieilles dames quand j'étais petit. Ouais, super. Donc la Juve, c'était de toute façon prédestiné.
Aujourd'hui au stade, il y avait des écharpes, des gens qui avaient écrit 3 avril 2018.
Oh,
c'est j'étais là. Comme pour dire, moi, j'étais un de ceux qui ont convaincu Ronaldo Zigné avec mon ovation.
Wow.
Ils sont fous.
Non, mais c'est
l'amour.
Tout est bon pour faire du fric.
Mais bien sûr.
C'est une belle histoire, mais c'est vrai que le titre de champion du monde de l'équipe de France a un peu éclipsé, mais c'est rocambolesque quand même. On n'en a pas trop parlé.
En Italie de ça.
Non, mais
il y avait la Coupe du Monde cet été, t'avais quelque chose,
toi. En Espagne, du côté de l'Espagne, au Real.
Bah tiens, passe des. Signé Ludo Bragnac. Dans quelques instants, on sera en Espagne avec Fred Hermel. Justement, le Barça a joué ce soir, l'Atlético de Madrid également. On fera un petit détour par le Portugal aussi. Il y avait un derby entre le Benfica et le Sporting. Semaine très importante pour les Aigles de Lisbonne qui joueront leur qualification en Ligue des Champions cette semaine aussi. À tout de suite pour la suite de l'After.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Accompagné d'Ali Benarbia, de Ludovico Bragnac, de Simone Rovera. Dans quelques instants, Fred Hermel sera avec nous en direct de l'After. Puisque sachez tiens que le Barça mène 1-0 face à Valladolid. Le buteur, Ousmane Dembélé. Et un peu plus tôt ce soir, l'Atlético de Madrid a battu le Rayo Vallecano 1-0. Et là aussi, c'est un Français qui a marqué, à savoir Antoine Griezmann. Petit détour par le Portugal, parce qu'il y avait un derby ce soir. Match entre le Benfica et le Sporting. Match comptant pour la deuxième journée du championnat portugais. Semaine importante.
On est obligé de faire
Parce que c'est diffusé sur RMC Sport. Match qui était assuré sur RMC Sport 2. Voilà, avec les excellents Paulo César et Luigi Collange aux commentaires. Avec un premier but pour le Sporting sur penalty transformé par Nani. Le mec qui fait la fausse, vous savez, c'est celui que Lyon n'a pas acheté là il y a quelques jours, Ruben Dias, le défenseur central, qui vient de prolonger avec le Benfica. Voilà, qui a découpé Montero dans la surface. Et Nani a donc marqué le premier but pour le Sporting.
Il dit qu'il touche pas le ballon, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça ce qu'il va dire. J'ai pas abîmé le ballon. Nani, voilà, premier but dans un derby pour le capitaine. Ouais, et elle est encore là, ouais.
Ah,
ouais.
C'est beau.
C'est bon. Hein. Troisième passage au club.
Il a marqué, hein.
Et il continue de marquer, Nani. Et égalisation ensuite de João Félix en toute fin de match, qui devient le plus jeune joueur du Benfica.
T'es sûr qu'on a les images?
Ouais, t'inquiète.
Ah, bon, ça va.
Qui est le plus jeune joueur du Benfica à marquer depuis Chalana en 77, quand même. Mais c'est une petite pépite. Hein.
Mais Shanana, quand il a marqué, il n'avait pas la moustache.
C'est vrai.
Il était jeune.
S'il l'avait.
Il l'avait déjà.
Alors, nous, on est avec la moustache.
Ah oui, c'est vrai.
Après, on enlève tout ça.
Déjà, oui.
Bien entendu. Et tiens, match retour, donc barrage retour de Ligue des Champions pour le Benfica qui sera à suivre sur RMC Sport, comme les autres barrages d'ailleurs. Ce sera Salonique face au PAOK qui a eu un partout lors du match aller.
Ça va être chaud là-bas.
Vous avez joué en Grèce tous les deux déjà ou pas?
J'ai jamais joué
en
Coupe d'Europe, jamais.
C'est vrai? Et toi non plus?
Non plus.
Sans déconner. Ouais. Merci pour votre expertise, les mecs, en tout cas.
Voilà.
Messieurs, on file en Espagne. Deux belles affiches ce soir. Mais avant, quelques petites informations, quelques petites actus du jour. Une qui concerne l'OL, tiens, justement, puisqu'on évoquait Rubén Díaz. La commission de discipline de l'UEFA qui a sanctionné l'OL d'un match à huis clos suite aux incidents de la rencontre face au CSKA Moscou. C'était en mars dernier. Alors, pour comportement raciste, incident dans les tribunes, jet de projectiles, utilisation également d'engins pyrotechniques. Communiqué de presse de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, je cite, le club exercera l'ensemble des voies de recours que le droit permet dès qu'il recevra la motivation de la décision par l'UEFA. Pour la faire simple, l'OL va faire appel de cette décision.
Ouais, parce que quoi, premier match Champions League à domicile, huis clos.
Huis clos, ouais. C'est pas top.
Être content, notre ami.
C'est pas top. Tiens, puisqu'on parle de l'OL également, sachez que Séville, le FC Séville, drague ouvertement Mariano Díaz, qui n'était pas titulaire d'ailleurs hier, Mariano, on se demandait un petit peu pourquoi. Pablo Machín, aujourd'hui en conférence de presse, l'entraîneur du FC Séville, a déclaré « Mariano a attiré l'attention avec les catégories inférieures du Real Madrid et Lyon a fait un gros effort pour l'obtenir. Il a un rendement exceptionnel et il a tout à fait le niveau pour jouer à Séville. Je souhaite que cela puisse se concrétiser », a déclaré Machín.
S'il parle comme ça, c'est pas pour rien.
Ça dragouille, non?
Ah, ça, c'est pas ça dragouille.
Está dragouillando, comme on dit en Espagne.
Bien sûr.
Si. Está dragando, comme on dit. Draganando.
Non.
Comment tu dis? Seducendo.
Non, il drague pas.
J'étais pas loin, punaise, t'as vu? J'ai inventé.
Ah, t'as pris tes cours, là, d'italien?
Non, pas du tout.
Bah, il drague pas les Italiens.
Moi aussi, j'ai un chat, mon pote.
Non, ça fait draguer, c'est normal.
Voilà, t'as tout.
Bah oui. Je trouve que c'est une bonne opportunité pour Lyon de le vendre et puis d'essayer de trouver quelqu'un d'autre.
Attends, c'est quand même, ce serait une grosse perte quand même à 5 jours de la fin du mercato.
Bah, si t'as une autre idée en tête, non?
Bah, faut se dépêcher, alors.
Il y a des coups à faire en fin de mercato.
Tu peux pas jouer juste avec trois devant. Il te faut absolument deux pailles.
Je te dis si t'as une solution de secours.
Qui est revenu bien, qui s'intégrait bien.
Ouais, mais il a bien réussi quand même pour sa première année, Mariano Díaz.
Autre nouvelle également qui est beaucoup moins réjouissante, Camara, le joueur Abdoul Razaï Camara, qui eh bien met un terme à sa carrière du côté de Guingamp. Alors, il a été victime d'une rupture des ligaments croisés, c'était fin 2017. Et communiqué de presse aujourd'hui de l'en avant de Guingamp, le joueur de 28 ans ne portera plus le maillot de l'en avant de Guingamp pour raison médicale, suite à un long processus d'examen qui viennent de rendre leur verdict. Voilà Guingamp qui poursuit. Toutes nos pensées accompagnent Raza et sa famille dans cette épreuve douloureuse à surmonter. L'ensemble du club lui souhaite bonne chance pour ce nouveau virage dans sa vie. C'est vrai que c'est terrible à 28 ans de mettre un terme à sa carrière comme ça.
J'y pense même pas, parce que c'est même pas une question de carrière ou financier. C'est de ne plus pouvoir jouer au football à 28 ans. Ça t'arrive à aller à 33, 34. Déjà, c'est pas évident, quoi, sur une blessure. Mais à cet âge-là, très dur à cet âge-là, à 28 ans.
Ouais. Sorti hier sur blessure face à Hoffenheim, Kingsley Coman est touché à la cheville gauche. Déchirure du ligament syndesmotique. Vous savez ce que c'est, ça?
Non.
Syndesmotique, ouais. Vous savez ce que c'est ou pas? Bon, bref, c'est la cheville gauche. Il va être opéré, a communiqué aujourd'hui le Bayern Munich. Il sera absent plusieurs semaines, a indiqué le club allemand. C'est la même cheville et la même blessure qu'en février dernier. Pour ce joueur qui a seulement 22 ans quand même, c'est une tuile de plus pour comment?
Quand on dit quelques semaines, sur la même blessure, encore une opération, c'est plus que quelques semaines. Ça va être très dur qu'il revienne. Et puis bon, psychologiquement, quand il t'arrive la même chose au même endroit, ben, tu as peur doublement. Et donc là, il va aller très doucement quand il va reprendre et ça va prendre du temps. Il sera toujours là à faire attention.
T'as peur qu'il revienne pas à son meilleur niveau, c'est ça?
Ah ben, deux fois se faire opérer, deux fois dans la même cheville.
La même année, hein.
Ben, quand on prend l'exemple de Yoann Gourcuff, qu'il est tout le temps là à poser ses pieds, parce que t'as tellement peur de
ça. Ça devient mental après, tu veux dire?
Ah oui, ouais. Ça prend le dessus. Et on le sait, hein. Le mental est énorme à ce niveau-là, au niveau des blessures.
Messieurs, Fred Hermel est là. Il était du côté du Wanda Metropolitano. Attends, Wanda Metropolitano. Avec l'accent italien, ça passe mieux.
Ça sent bien.
L'Atlético de Madrid qui a battu le Rayo ce soir dans un derby madrilène. Salut, Fredo.
Non seulement il y était, mais il y est encore. Hola, chicos.
Ça va dormir là-bas, ouais, du coup.
Ça, pas parce qu'il doit la manger après les matchs.
Mais oui.
Mais non, c'est parce que monsieur, tout a été un peu retardé parce que l'Atlético a fêté la Super Coupe d'Europe avec son public. Alors avant le match, il y avait la vraie Coupe du Monde, la nôtre. présenter le vrai trophée présenté par les trois, par Lemar, par Griezmann et Lucas Hernandez au public. Après, ils ont fêté la Supercoupe et Griezmann est passé en conférence de presse et il est passé très tard, tout ça. Donc non, je n'ai pas mangé, mais j'ai pu poser une question pour RMC Sport à Antoine Griezmann. Victoire un peu compliquée de l'Atlético. Mais franchement, nos trois champions du monde, ils ont une super mentalité. On sent qu'ils sont en confiance. Griezmann est encore physiquement, il n'est pas encore au top, mais il est encore décisif. Lundi, il donnait une passe décisive extraordinaire. Ce soir, il marque le but de la victoire après un corner de Thomas tourné par Diego Godin et dans une position pas très confortable, mais un but de numéro 9 pour le numéro 7 Grisou. Et ben 1-0 pour l'Atlético qui est une équipe solide qui pour l'instant en match officiel c'est une victoire contre le Real en Supercoupe d'Europe, un match nul, très bon match à Valence, et ce soir une victoire dans le petit derby face au Rayo Vallecano. Franchement, moi je trouve que l'Atlético est très très bien parti cette saison.
On aura le son justement d'Antoine Griezmann dans quelques instants. Fred, ils ont été comment les autres Français dans ce match, dans cette victoire de l'Atlético face au Rayo?
Ouais, surtout Lemar.
Lucas Hernandez, c'est d'une propreté, mais c'est jamais extraordinaire. Mais t'as zéro souci avec lui, quoi. C'est une garantie. Bon, là, il a bouffé la place de Philippe Luis, Philippe Luis qui a envie de partir au PSG parce qu'il sait qu'ici, il va pas beaucoup jouer. Lucas Hernandez, offensivement, n'apporte pas énormément, mais on le sait, défensivement, c'est toujours propre. Il y a zéro erreur. Et ça, pour un entraîneur comme Simeone, c'est extraordinaire. Surtout que de l'autre côté, il y a un latéral droit, Juan Fran, qui est très offensif, donc ça compense énormément. Et puis Thomas Lemar, je dois dire que moi, je suis bluffé. Moi, je me souviens que Jürgen Griezmann, il avait mis 6 mois avant d'être titulaire à l'Atlético. Parce que il faut faire ses preuves à l'entraînement, parce que Diego Simeone est très exigeant. Et là, Thomas Lemar, il est arrivé cet été, 3 matchs officiels, 3 fois titulaire. Voilà. Et ce soir, il a joué toute la rencontre. Et il a ce qu'on appelle en espagnol un desparparro. C'est-à-dire il ose tout. Il ose tout sur le terrain. Et c'est pas mal, Franchement, c'est très intéressant.
Il a du volume,
il combine beaucoup avec Griezmann. Ouais. Et puis, il provoque, il joue côté gauche, mais il repique énormément dans l'axe. Et là, on sent qu'avec Antoine Griezmann, il y a une connexion qui marche bien.
Tiens, Fredo, je te coupe. Puisque tu évoques Antoine Griezmann, buteur, le champion du monde ce soir, t'étais avec lui, il y a quelques instants, t'as recueilli ses impressions. Il s'est exprimé sur son état de forme, Antoine Griezmann, et on l'écoute.
J'ai eu 20 jours de vacances. Là, c'était que mon 3e match dans la saison. J'essaye de retrouver le rythme petit à petit. Après, je fais beaucoup de choses à l'entraînement, mais l'entraînement, c'est pas la même chose en match. Continuer à travailler, jouer le plus possible de minutes pendant les matchs. Et ça va arriver. Mais comme t'as dit, je suis décisif. Donc j'espère continuer comme ça. Et après, contre Valence, j'étais mieux en jambes qu'aujourd'hui, par exemple. Mais voilà, après, il y aura des jours où je vais être au top de ma forme et d'autres moins bien. Mais faudra gérer ça et être toujours décisif.
Voilà, et donc il aura été décisif, Antoine Griezmann, buteur donc face au Rayo Vallecano.
Un truc surtout important, et on aura l'occasion de l'écouter, il a surtout dit qu'il se rendait pas encore compte qu'il était champion du monde, quoi. Et que ce n'est qu'à alors ça lui donne la confiance, mais qu'il a pas encore vraiment réalisé, c'est pareil pour ses coéquipiers, et ce n'est qu'à Clairefontaine que dans quelques jours, dans une dizaine de jours, que quand il mettra le maillot avec les 2 étoiles, qu'il se rendra vraiment compte qu'il est champion du monde. C'était assez touchant. Grand sourire d'Antoine Griezmann, et on sent que ça va être une saison très spéciale parce qu'il avait un blocage, il avait jamais rien gagné. Et là, en un mois et demi, il a gagné une Ligue Europa en étant décisif en finale, une Coupe du Monde en étant décisif en finale. Là, il est lancé comme personne. On le sent très très bien, très heureux. Et je fais moi personnellement l'Atlético mon favori de cette Liga. Ils ont déjà réussi pour moi les 2 meilleurs transferts de l'été en Espagne, c'est-à-dire retenir Griezmann et retenir Oblak. Et puis ils ont fait venir des joueurs importants comme Lemar, comme Rodri, comme Gelson Martins qui a remplacé Griezmann ce soir en deuxième période. Moi, je trouve que c'est une équipe qui est armée pour tenir le coup sur la saison parce qu'ils ont un très bon banc.
Fred, un petit mot sur le Barça. Je suppose que tu as un œil également sur le match du Barça qui mène là. Il reste quelques minutes à jouer face à Valladolid. C'est Dembélé, un autre Français d'ailleurs, qui a marqué le seul but pour l'instant de ce match.
Oui, dans un match qui est catastrophique parce que la pelouse a été installée il y a 4 jours. Donc elle se lève, c'est très dangereux pour les joueurs. C'est incroyable que ce match ait eu lieu dans de telles conditions. Voilà. Et que ce match ait lieu, c'est du délire, quoi. Voilà, la Liga, la meilleure Liga du monde, la Liga Española, n'est pas à la hauteur de son, de sa réputation. Il y a une autorisation qui a été donnée pour que le match puisse se jouer. Mon équipe, le RC Lens, cet après-midi n'a pas joué à Béziers,
ouais.
J'ai les joueurs. Ce soir, à Valladolid, il y a eu une autorisation donnée, mais c'est pas normal.
Et très très vite, Fredo, je voulais juste avoir ton sentiment là-dessus, également ton commentaire. Il y a une de As aujourd'hui qui dit c'est Mbappé ou rien, qui envoie Kylian Mbappé une fois encore du côté du Real Madrid. C'est quoi cette histoire? C'est encore du fantasme de la part de la presse espagnole?
Ouais, non, mais en fait, ils n'envoient pas Mbappé du côté du Real, c'est pas ça. Ils disent, s'il n'y a pas le miracle Mbappé, c'est-à-dire l'UEFA qui annonce que le PSG doit se séparer, voilà, un miracle, il n'y aura pas de recrue du côté du Real Madrid. C'est ce que dit As aujourd'hui.
Et l'après Ronaldo, Fred, comment ça se passe?
Bah, pour l'instant, ça va bien, quoi.
Et Modric? Alors, je vous dis, le cas Modric?
Ah non, mais c'est réglé, Modric, si vous
voulez. Modric, c'est réglé, ok.
Ah oui, non, bah de toute façon l'Italie, les transferts,
le mercato italien est fermé,
c'était pour l'Inter. Voilà, donc non, mais Modric, il voulait une augmentation qu'il a eu, c'était un jeu d'agent. Voilà, ça s'est réglé en 5 minutes dans le bureau entre Modric et Florentino Pérez. Il avait envie de rester, il voulait un peu plus d'argent, et du côté du Real, on estimait qu'il avait mérité cette augmentation.
Merci Fredo, faut qu'on y aille.
Cristiano est parti, il y a beaucoup d'argent au Real.
Merci. Adios. Fredo, bonne soirée, bonne nuit Fredo, rentre bien.
Ciao Fred.
Merci beaucoup Fredo, merci, grazie mille Simone Rovera.
Buonanotte.
Merci Ali Benarbia.
Ciao.
Merci Ludovic Obraniak.
Bonne soirée.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
T'es là demain? Non. C'est toi demain?
Non.
C'est qui? C'est pas toi demain? Eh, demain les gars, c'est le retour de Daniel Riolo. Demain j'ai le bourré de Médoc, hein, je vais prendre du calme demain. Parce qu'il va être chaud bouillant demain. Il sera avec Sébastien Piocelle. Allez, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Merci, bonne soirée, bisous, à demain, ciao.
RMC, le football show, l'after foot.